Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos pour l'émission Bonheur Chronique. Le thème de cette première émission est « Pourquoi il est préférable d'être optimiste ? » Avons-nous seulement le choix ? Moi-même, ai-je décidé d'être optimiste ? En réalité, nous avons tous en nous la capacité d'explorer notre pessimisme et notre optimisme, puis d'agir de façon consciente en exploitant la posture la plus efficiente dans chaque situation. Au cours de leur étude sur le cerveau et le pessimisme, une spécialiste du Massachusetts Institute of Technology, Anne Gabriel, et ses collègues ont découvert récemment une zone particulière à la base du cerveau, à l'intérieur du striatum, le noyau caudé. Cette zone aiderait l'individu à analyser tous les avantages et les inconvénients d'éventuelles actions avant de prendre une décision définitive. Blaise Pascal nous rappelait déjà que le pessimisme est affaire d'humeur, l'optimisme est affaire de volonté. Une autre façon de nous rappeler qu'être pessimiste est naturel. Quand nous vivions dans une nature sauvage et dangereuse, à la merci de prédateurs affamés et à la découverte de plantes inconnues, il était de bon ton d'être prudent, très prudent même, méfiant quant à toute nouveauté, sans cesse sur nos gardes, imaginant les pires situations pour mieux s'y préparer. Notre pessimisme assurait notre survie. Cependant, sauf exception, nous ne vivons plus aujourd'hui dans les mêmes conditions. Notre monde est aseptisé, protégé, sécurisé. Nous ne risquons pas d'être dévorés par un tigre aux dents de sabre à chaque descente du RER. Nous achetons des fruits et des légumes bio garantis sans poison. Nous pouvons donc nous offrir le luxe d'être optimistes. C'est facile d'être optimiste quand tout va bien dans sa vie, mais c'est là, dans la difficulté, que l'optimisme est le plus utile. Dans les crises, les ruptures, la conduite d'une entreprise notamment. Ça me rappelle cette phrase de Jacqueline de Romilly. Quand tout est difficile, l'optimisme est le moyen de transformer les soucis en défis. Les soucis nous accablent alors que les défis, nous avons envie de les relever. L'optimiste, c'est donc aussi utiliser le pessimisme, car le pessimisme est anticipateur. Il nous oblige à prendre en considération des freins, des difficultés, des obstacles, autant de facteurs d'échec possibles ou de problèmes que notre enthousiasme nous conduit parfois à minimiser ou à ignorer, comme l'explique Alain Braconnier dans son ouvrage « L'optimisme intelligent ». En un mot, il nous remet dans la complexité du réel et nous amène à mieux penser nos décisions et nos choix. Le pessimisme est le garde-fou qui nous empêche de tomber dans l'optimisme de l'illusion et un levier de créativité. En nous obligeant à faire preuve d'initiative et d'imagination pour surmonter les obstacles, le pessimisme nous pousse dans nos retranchements et nous permet de mobiliser toutes nos ressources. Lucidité, anticipation, imagination sont donc les vertus d'un pessimisme sélectif mis au service d'un optimisme réaliste. Le chercheur en psychologie américain Christopher Peterson se réfère à des études qui mettent en évidence qu'une disposition d'esprit optimiste est associée au bonheur, à la persévérance et à l'accomplissement personnel. Pourquoi est-il préférable d'être optimiste ? Parce que c'est bon pour la santé. Au XVIIIe siècle, Voltaire l'écrivait déjà ainsi « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Savez-vous que les optimistes vivent en moyenne 7 ans de plus en bonne santé que les pessimistes ? Comment le sait-on ? Eh bien, grâce notamment à une étude approfondie des documents fournis par un couvent de Milwaukee dans le Wisconsin aux États-Unis. En effet, depuis le début du XXe siècle, il était demandé aux jeunes nonnes de rédiger une brève description de leur vie à leur arrivée au couvent. Et c'est cette matière qui a servi de base à une étude portant sur 180 nonnes du même milieu économique et social, ayant vécu dans les mêmes conditions. Même régime alimentaire, même rythme de vie, même air respiré, même accès aux soins médicaux, pas d'amoureux, ni d'alcool, ni de tabac. Lorsque les chercheurs ont lu les récits autobiographiques sans savoir combien de temps avaient vécu les novices, une différence notable est apparue. Certaines utilisaient beaucoup d'expressions positives, parlaient de leur joie, d'amour divin et de bonheur, colorant leurs récits d'optimisme, quand d'autres décrivaient leur famille ou leurs études sans émotion. désirant faire de leur mieux pour la religion ou leur sanctification personnelle, avec des tonalités neutres ou pessimistes. On a découvert alors que 90% des plus joyeuses d'entre elles étaient toujours vivantes à 85 ans, contre 34% des moins joyeuses. De même, 54% des plus joyeuses étaient vivantes à 94 ans, contre 11% des moins joyeuses. Plus les émotions liées à la joie et les mots positifs étaient nombreux, plus les religieuses avaient de chances d'être encore en vie et en bonne santé 60 ans plus tard. La différence de longévité entre elles pouvait atteindre 7 ans. L'expérience a été reproduite ailleurs, confirmant les mêmes conclusions. Le bonheur conserve donc. Les gens heureux et optimistes présentent 2 fois moins de risques de tomber malade et de mourir prématurément. Pour plus de détails sur cette étude et sur le sujet du bonheur, je vous recommande la lecture du livre de Martin Seligman, Vivre la psychologie positive, et de celui de Florence Servan-Schreiber, 3 kiffs par jour. Pourquoi il est préférable d'être optimiste ? Mais parce que c'est bon pour les autres. Les optimistes sont plus agréables à fréquenter que les pessimistes. Ils sont de meilleurs collègues, motivants, encourageants. Ils rebondissent plus vite en cas de difficulté et réduisent le stress ambiant. Comme le font remarquer les professeurs Pierre et Henri Lowe et le docteur André Galinowski dans leur ouvrage « Le stress permanent », la personnalité optimiste intervient comme appoint correcteur du stress. L'optimisme est donc source de bien-être, pour soi et pour les autres. Pourquoi est-il bon et préférable d'être optimiste ? Parce que c'est bon pour l'environnement, la famille, l'entreprise, la nature. Dans différents domaines, l'optimisme aide au succès. Ainsi, selon une étude menée en 1986 par Martin Seligman, il apparaît que les vendeurs optimistes vendaient en moyenne 37% de plus que les pessimistes. Par ailleurs, ceux présents dans le top 10 du degré d'optimisme vendaient 88% de plus que ceux situés dans le top 10 du degré de pessimisme. Notons aussi que les vendeurs optimistes apparaissaient plus satisfaits de leur travail et démissionnaient 2 fois moins. Ça me rappelle la petite histoire des chaussures. Une fabrique de chaussures désire prospecter un nouveau marché sur un territoire encore inexploré. Elle envoie 2 représentants sur place. Au bout de quelques jours, chacun des 2 envoie son rapport. « Aucun marché possible. Ici, tout le monde marche pieds nus !» annonce l'un. « Marché formidable en vue. Ici, tout le monde marche pieds nus !» s'exclame l'autre. Devinez quel est l'optimiste. Il s'agit donc d'opter pour un optimisme réaliste, ce qu'on appelle l'opti-réalisme. Chiffres à l'appui, je vous conseille de lire l'excellent livre de Jacques Lecomte, « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le pensez ». Dans son introduction, l'auteur indique combien il est conscient que ce titre peut choquer. Mais c'est vrai, comment le monde pourrait-il aller mieux quand le chômage, les manifestations de colère contre les augmentations de taxes, les casseurs et les pilleurs profitant de la situation, les guerres, les attentats, le réchauffement climatique et tant d'autres mauvaises nouvelles font la une des médias. Pourtant, les chiffres provenant d'études scientifiques et de sources validées telles que l'ONU, l'UNICEF, la FAO, l'UNESCO, l'OMS, la Banque mondiale, le Bureau international du travail ou le Programme des Nations Unies pour l'environnement nous disent ceci. Ces dernières décennies, sur l'ensemble du globe, la pauvreté, la faim, l'analphabétisme et les maladies ont reculé comme jamais auparavant. Quant à la violence, elle connaît depuis plusieurs siècles un inexorable déclin. En résumé, contrairement à une opinion largement répandue, l'humanité va mieux qu'il y a 20 ans, même s'il reste encore malheureusement de fortes zones sombres. Quant à la planète, elle est certes en moins bonne posture sur certains aspects, mais en meilleur état sur d'autres. Beaucoup de militants et de journalistes pensent qu'il est nécessaire de dramatiser l'état de notre monde pour provoquer un choc salutaire. Cette stratégie a des avantages, mais elle a aussi de grands inconvénients. L'excès d'informations catastrophistes, diffusées chaque jour par les médias, nous induit souvent en erreur. Nous sommes à la merci des fake news, d'interprétations négatives, de progrès sous-estimés, voire de prédictions inquiétantes. Elles ont tendance à nous démobiliser, obtenant de nous l'effet inverse. Pourquoi faire un effort puisque de toute manière tout est fichu? Ça nous démobilise par une gestion de la terreur, parce que trop c'est trop et qu'on n'écoute plus, on n'entend plus les messages catastrophiques. Et enfin, les informations catastrophistes incitent souvent à des mesures politiques autoritaires. La peur sert l'intérêt des politiques démagogues, conduit au désir de héros vengeurs, à une faillite de l'éthique. Voici maintenant donc quelques bonnes nouvelles nous incitant à l'opti-réalisme, un optimiste réaliste. La pauvreté. Depuis 1990, l'extrême pauvreté a chuté d'un tiers. Plus d'un milliard de personnes ont échappé à cette condition. Concernant la faim, près de 2 milliards de personnes ont été libérées d'une probable sous-alimentation au cours des 25 dernières années. L'objectif est de zéro faim pour 2030. Éducation. Les enfants non scolarisés étaient 120 millions en 1996. Ils étaient 57 millions en 2015. Un nombre croissant de fillettes ont accès à l'éducation. En 2016, elles étaient 99,7% garçons à être scolarisés en primaire, contre 85% en 1986. Démocratie. Les démocraties ne représentaient que 5% des États il y a deux siècles. Depuis les années 1990, elles sont plus nombreuses que les régimes autoritaires. Concernant la démographie, la tragédie démographique n'a pas eu lieu. L'augmentation de la population n'a pas entraîné de drames à grande échelle. Famine, guerre, etc. La plupart des pays sont maintenant dans une phase de transition démographique caractérisée par une forte réduction du nombre d'enfants par famille. Concernant la santé, la mortalité maternelle et la mortalité infantile ont toutes deux été divisées par deux entre 1990 et 2015. La variole a été totalement éradiquée. La tuberculose a chuté et le paludisme continue de baisser. L'épidémie de sida recule depuis plus de 25 ans. Entre 2000 et 2013, les décès ont chuté de 35%. Les nouvelles infections ont diminué de 40%. Dans certaines régions du monde, la transmission du virus de la femme enceinte à son enfant a quasiment disparu. Concernant les guerres, les guerres entre États, autrefois responsables de centaines de millions de morts, ont presque totalement disparu. Les guerres civiles sont, malgré leur violence, beaucoup moins meurtrières. En 2015, il y a eu 150 000 décès par guerre, soit 3 pour 1000 décès dans le monde. Un nombre sans commune mesure avec les périodes précédentes de l'histoire. Rappelons-nous les 60 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale, les 40 millions de morts des conquêtes mongoles de Gengis Khan, les 20 millions de la politique de Staline, ou les 5 millions des guerres napoléoniennes. Concernant le terrorisme, la force du terrorisme, c'est d'insuffler la peur. La nôtre, c'est de refuser d'entrer dans cette spirale de peur et de haine. Responsables politiques, médias et sociétés civiles ont tous leur part de responsabilité. Car si l'on regarde réellement les chiffres, le risque d'être victime d'un attentat est infime. Prenons l'année 2015 en France, marquée dans tous les esprits. Cette année-là, les attentats ont fait 149 victimes. Tandis que les accidents de la route ont entraîné 3616 décès, soit 25 fois plus. Les suicides ont entraîné plus de 10 000 décès, soit 75 fois plus. Les accidents de la vie courante ont entraîné plus de 20 000 décès, soit 136 fois plus. Le tabac a entraîné 73 000 décès, soit presque 500 fois plus. Autrement dit, les cigarettiers font plus de morts en une seule journée que les terroristes pendant toute l'année la plus meurtrière par attentat. Concernant la criminalité, le nombre d'homicides volontaires en région parisienne a baissé de 65% en 20 ans. Ce taux a été divisé par 30 en 5 siècles. Alors que nous n'avons jamais été autant en sécurité, beaucoup d'entre nous estiment que la société est de plus en plus violente. Il y a trois raisons à cela. Une cause psychologique et sociale. Il existe un rejet de la violence beaucoup plus présent aujourd'hui qu'il n'était dans le passé. Une cause psychologique, notre cerveau aime la simplification. On ne retient que les informations qui nous touchent. Une cause sociale, le rôle des médias. Prenons un exemple aux USA. 350 personnes apparaissent en moyenne dans les films passés en soirée à la télévision. Parmi elles, 7 personnes sont tuées, soit 1 sur 50, alors que le taux d'homicide dans ce pays est de 1 pour 20 000 habitants, soit 400 fois moins. Si on parle de la peine de mort, depuis les années 1970, le nombre de pays ayant aboli la peine de mort augmente constamment. Ils étaient 8 en 1950 et 102 en 2015. L'environnement maintenant. La couche d'ozone se reconstitue. Elle retrouvera son niveau initial avant 2050. 25 millions de cas de cancer auront été évités. La déforestation ralentit enfin. En Amazonie, elle a chuté de façon importante et en France, la forêt s'accroît de 50 000 hectares par an. Il y a autant de forêts en France aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Concernant la biodiversité, moins de 1% des organismes vivants se sont éteints au cours des 4 derniers siècles. Aucune espèce marine n'a disparu durant ces 30 dernières années. Le vrai problème n'est pas la disparition des espèces, mais la diminution du nombre d'animaux. La superficie des zones protégées dans le monde double tous les 10 ans depuis un demi-siècle. Plus de 350 espèces d'animaux considérées comme disparues ont été redécouvertes. Certaines espèces animales, passées près de l'extinction, sont aujourd'hui sauvées. Quelques exemples. Il existait 5000 baleines à bosse dans les années 1960, il y en a 80 000 aujourd'hui. Il n'y avait plus que 300 bisons d'Amérique en 1900. On en compte plus de 530 000 aujourd'hui. Il y avait 1000 grands pandas à l'état sauvage en 1976. Il en existe plus de 2000 aujourd'hui. Et un aigle, le pygargue à tête blanche, emblème des États-Unis, il existait 417 couples nicheurs en 1963. Il y en a 10 000 aujourd'hui. Transition énergétique. Les énergies renouvelables se développent à un rythme que personne n'aurait imaginé il y a quelques années. Et pour la première fois, la quantité d'émissions de CO2, l'un des principaux gaz à effet de serre, est demeurée stable depuis 3 ans. Si en matière de réchauffement climatique, presque tous les indicateurs sont au rouge, les spécialistes relèvent qu'en 2017, près de 25% de l'électricité mondiale produite l'a été avec des sources renouvelables. Alors qu'en 2000, nous n'en étions qu'à 7%. Alors en 2019, poursuivons ces progrès, chacun à son échelle, pour un monde meilleur. Je vous conseille de vous abonner à la newsletter de la Ligue des Optimistes. Vous y trouverez chaque semaine ou chaque mois des informations très intéressantes sur l'optimisme. Il est temps maintenant de vous raconter le conte de la semaine. Une petite histoire. Cette semaine, il s'agit d'un conte du Moyen-Orient qui a pour titre « Chacun porte sa vision du monde ». Il était une fois un vieil homme assis à l'entrée d'une ville du Moyen-Orient. Un jeune homme s'approche et lui dit « Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme lui répondit par une question. « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?»« Oh, égoïste et méchant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais bien content de partir, » dit le jeune homme. Le vieil répondit, « Tu trouveras les mêmes gens ici. » Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha et lui posa exactement la même question. « Je viens d'arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme répondit de même, « Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» Ils étaient bons et accueillants, honnêtes. J'y avais de bons amis. J'ai eu beaucoup de mal à la quitter, répondit le jeune homme. Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme. Un marchand qui faisait boire ses chameaux non loin de là avait entendu les deux conversations. Dès que le deuxième jeune homme se fut éloigné, il s'adressa au vieillard sur un ton de reproche. Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question posée par deux personnes. Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres, répondit le vieillard. Chacun porte son univers dans son cœur. Chaque semaine, je vous proposerai de réaliser une action. Voici l'action de la semaine. Emprunter ou acheter un journal local ou national, quotidien ou un hebdomadaire. Et surligner toutes les bonnes nouvelles. Puis arrêtez-vous un instant, mesurez l'effet de cette lecture positive dans votre corps, dans votre cœur et dans votre tête. Et je vous laisse maintenant avec la musique du bonheur de la semaine, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Et à bientôt pour une prochaine chronique.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.
Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.